Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
CPE, trois lettres, contrat, première embauche, quelle crise, quelle reculade, pourraient dire certains journalistes, puisque maintenant, à l'heure où cette émission est faite, eh bien, cette crise est, on peut le dire, terminée. Nous allons y revenir, mais est-elle vraiment terminée? C'est la question qui se pose, puisque la plupart des commentateurs soulignent le fait que le marché du travail français demeure dans une situation de blocage constante et qu'il va bien falloir trouver des solutions. Alors nous autres ici même, nous n'allons pas revenir sur des considérations d'ordre strictement politicien, des stratégies politiques avant l'élection présidentielle, non. Et bien sûr, ce qui nous occupe ici même, c'est de savoir déjà bien diagnostiquer ce qui s'est passé, puis apporter des solutions, avoir un regard un peu scientifique sur cette question. Alors c'est Pierre Bochet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Institut, naturellement. Oui. Vous nous accompagnez dans cette émission Éclairage pour exactement savoir de quoi il s'agit. Je rappelle que toutes les questions liées à l'économie ne vous sont pas étrangères. Vous êtes docteur en économie. Vous avez dirigé les études à l'École nationale d'administration. Vous avez présidé l'Université Paris 1, donc vous avez en plus un regard sur le monde étudiant. Et ça, je pense que ça doit jouer certainement dans votre analyse. Vous avez aussi dirigé l'ensemble des sciences humaines au CNRS, donc versant scientifique, et vous êtes également, vous ne le dites pas sans un certain sourire, membre de l'Académie de Marine. Donc nous allons voguer sur les flots de cette actualité du CPE. Est-ce que l'on peut déjà, Pierre Bochet, savoir ce que représente cette crise aujourd'hui? Est-ce qu'elle n'a pas démesurément enflé? Vous-même, comment avez-vous appréhendé cette situation? Vous vous êtes dit, mais enfin, de quoi parle-t-on?
Tout à fait. Cette crise a éclaté d'une façon totalement imprévisible. Elle est née d'un certain nombre de paradoxes. D'abord une situation, disons. La première, c'est celle de la jeunesse aujourd'hui, dont certains se sont demandé pourquoi est-ce qu'elle se révolte et contre quoi. Je dirais que, analyse banale, qu'elle se révolte contre trois facteurs. Premièrement, le fait qu'elles sentent la France endettée. Elles sentent qu'un jour ou l'autre, leur retraite et leur mode de vie sont très gênés par cet endettement de la nation au sens le plus large. Troisièmement, il ne fait aucun doute qu'elle est sensible aussi aux menaces écologiques et accuse incontestablement toutes les politiques d'avoir négligé ce qui est au fond leur salut avec celui de la planète à long terme.
Ah, vous faites le lien entre les deux sujets, entre l'emploi et l'écologie, par exemple.
Je pense que tout est lié. Je suis très frappé de ce que les jeunes qui sont restés très longtemps indifférents ne le sont plus du tout aujourd'hui à ces problèmes.
C'est presque une angoisse existentielle, hein.
Je crois.
Beaucoup plus que le marché du travail stricto sensu, hein.
Certainement. Encore que ce qui s'est ajouté, c'est un certain nombre de paradoxes qu'ils ont ressentis. Tout d'abord, on peut se demander pourquoi la crise éclate alors qu'il y a un renversement de la courbe du chômage en France. En février de cette année, le chômage n'était plus, entre guillemets, que de 2,6% de la population active. Il faut se souvenir que pour les jeunes, il représentait encore 22% de la population pour les moins de 25 ans, ce qui montre l'importance des problèmes du chômage pour les jeunes. Je ne citerai pas beaucoup de chiffres, mais cela me paraît important. Deuxièmement, autre paradoxe, le contrat nouvelle embauche, qui n'était pas profondément différent du contrat actuel du CPE, a tout de même été un succès, quoi qu'on en pense. C'est-à-dire que le nombre de chômeurs dans ces tranches a tendance à diminuer à la suite de ce contrat de nouvelle embauche. Et ce qui était proposé au niveau des CPE peut apparaître assez secondaire, puisqu'au fond, il s'agissait d'étendre ce contrat aux jeunes jusqu'à 26 ans, et d'autre part, d'en étendre la durée, au-delà des 2 ans qui était la durée du contrat de nouvelle embauche. Autrement dit...
C'était une extension naturelle.
Extension naturelle. Elle a été faite d'une façon très provocante, dans la mesure où il n'y a pas eu de concertation, qui a été un élément fondamental de la crise. Mais il n'y avait pas que cela. Si on négligeait les autres éléments, on ne comprendrait rien à ce qui s'est passé.
Puis cet événement s'est produit en début d'année, alors que le CNE est passé pendant l'été. Bon, ça compte, hein.
Tout à fait. Enfin, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'effectivement, cette affaire a été lancée sur des problèmes, comme nous venons de le dire, relativement, je dirais, secondaires, une simple extension de quelque chose d'existant qui était passé sans difficulté le CNE, mais il ne fait aucun doute que, du coup, les problèmes ont dérivé très vite et qu'on a oublié pratiquement le problème fondamental qui est celui de l'emploi des jeunes. C'était les conditions de l'emploi, beaucoup plus que le problème de l'emploi qui a été posé. Or, le problème fondamental, c'est celui de l'emploi des jeunes. Y a-t-il place dans la nation pour un emploi, pour une demande de travail suffisante pour assumer, pour, je dirais, employer cette main-d'œuvre plus abondante qui se présente aujourd'hui.
Là, vous soulignez un point clé parce que ça explique le nœud de la crise.
Tout à fait.
Que l'on est focalisé sur un aspect relativement secondaire, en somme toute.
Tout à fait.
Alors que la priorité, c'était l'emploi et non pas les conditions de l'emploi, comme vous le soulignez.
Tout à fait.
Ça, c'est quand même un point essentiel.
Je crois qu'il faut revenir donc au problème de l'emploi. Dans quels termes se posent les problèmes de l'emploi en France? On peut dire, a priori, tout va bien, il y a beaucoup de personnes qui partent à la retraite, donc il y aura des emplois. Il ne faut quand même pas oublier qu'actuellement, si je compare à ce qui se passait dans ma jeunesse, il y a de ça plus d'un demi-siècle, je tiens à souligner, nous avions aussi des emplois extrêmement précaires. Quand je me rappelle, moi j'ai eu d'emploi permanent qu'à partir de l'âge de 29 ans. Mais ça, avant, j'avais eu toujours des emplois précaires, un peu au jour le jour, sinon au moins le mois au mois.
En dépit de votre formation universitaire.
En dépit de ma formation. Je ne les ai d'ailleurs pas recherchés, on n'était pas préoccupés de ce problème de précarité. Mais il y avait une tranquillité sur l'importance de l'emploi potentiel. Et ça, c'était quand même très rassurant. Toutefois, pourquoi est-ce que le problème se pose de façon... Pour parler du problème de l'emploi, il faut d'abord comparer les situations de l'emploi des jeunes en France et dans l'ensemble des nations occidentales, dans la plupart des nations occidentales, c'est-à-dire, disons, d'un côté le monde capitaliste américain et le monde socialiste, de gouvernements socialistes, d'une grande partie aussi des gouvernements européens. La situation est totalement différente. Je veux dire que l'emploi des jeunes aux États-Unis et dans les pays, notamment nordiques, socialistes d'Europe, est différente en ce sens que j'ai donné le chiffre tout à l'heure, 22% de chômage. Pour les jeunes de moins de 25 ans en France, nous en avons beaucoup moins dans l'ensemble de ces trois blocs, États-Unis et nord de l'Europe. Pourquoi, comment? Dans le monde capitaliste, il n'y a rien d'étonnant, puisqu'au fond, le capitalisme a toujours été très largement, il faut le dire, pour la précarité. La précarité est une souplesse fondamentale d'un système capitaliste. Autrement dit, que cette situation existe aux États-Unis, qu'elle puisse avoir des éléments favorables, je ne dis pas sur tous les plans, notamment pour les laisser pour compte, etc., mais qu'elle soit favorable à l'emploi et au développement de l'emploi et de l'industrie, c'est une évidence.
Quand vous dites précarité, vous dites flexibilité, c'est la même chose?
Non, c'est-à-dire contrat à faible durée, sans garantie d'une durée minimale.
Bon, mais c'est la précarité pour l'employé et c'est la flexibilité pour l'employeur.
Absolument.
C'est simplement les deux versants d'une même réalité.
Tout à fait. Tout à fait.
Bon, ça, c'est inhérent au capitalisme.
Moi, je le crois. Mmh. Je le crois, et le capitalisme peut fonctionner vigoureusement comme il le fait actuellement aux États-Unis, c'est que dans cette ambiance, qui a d'autres points de vue, peut-être, dans la mesure où la précarité est quasi totale au départ, peut-être, je pense, assez largement condamnable. Ceci est un autre problème. Mais ce qui est plus frappant, et c'est là où le problème est beaucoup plus intéressant, c'est de voir ce qui se passe dans les pays socialistes. En réalité, nous avons des pays qui n'ont absolument pas renié leur socialisme, qu'il s'agisse de la Grande-Bretagne, de la Suède, de la Norvège, pour n'en citer que quelques-uns, ils sont restés socialistes.
Vraiment ?
Incontestablement, nous pourrons en parler tout à l'heure.
Mais on ne peut pas les comparer à Cuba, par exemple, ou à l'ex-Union soviétique.
Non,
ça serait dérisoire.
Ils n'ont pas renoncé à leur socialisme, mais ils ont une certaine conception du socialisme qui a évolué, qui a beaucoup évolué dans les 10 dernières années. En effet, si vous regardez la différence avec les pays que vous venez de citer, avec plan rigide, etc., sont d'abord des pays qui ont accepté la mondialisation. C'est-à-dire que la souplesse est pour eux une condition fondamentale de, je dirais, d'intégration dans le monde moderne. Mais surtout, et en ce qui concerne les jeunes, il y a une philosophie derrière du socialisme qui est profondément différente, qui est devenue profondément différente. Il ne nie pas que la nation a des devoirs à l'égard des jeunes, et des devoirs fondamentaux, leur assurer une éducation le plus gratuite possible, ce qui n'est pas le cas partout, mais qui est tout de même très large. Les bourses sont très larges, etc. D'autre part, La nation a un devoir fondamental qui est de procurer un emploi. Il faut qu'il y ait suffisamment d'emplois, enfin, c'est la vieille philosophie de Beveridge, n'est-ce pas ? Le plein emploi. Autrement dit, offrir des emplois aux jeunes est pour eux une des premières priorités. Mais il y a une contrepartie qui chez nous est complètement oubliée, qui est le devoir des jeunes d'accepter cet emploi. On sanctionne les jeunes qui ne veulent pas accepter d'emploi dans des conditions qui nous apparaissent incontestablement rigides.
Sous quelle forme ces sanctions ?
Eh bien, c'est Madame Thatcher qui a bien nettoyé le terrain, si je puis dire, dans la mesure où elle n'a pas hésité à transformer des garanties multiples et variées, les entreprises publiques, etc., en un secteur privé, compétitif, ouvert sur le monde. Alors, le nouveau socialisme accepte la mondialisation, il accepte en même temps le fait qu'on doive changer d'emploi, mais il dit « j'offre des emplois en nombre, vous devez les accepter ». Comment ? Eh bien, je ne me rappelle plus l'expression anglaise qui est très caractéristique, qui date maintenant de 15 ans, qui consiste « vous aurez un emploi si vous acceptez les conditions dont nous vous donnons cet emploi ». C'est-à-dire que si vous êtes en chômage, au bout d'un certain temps, nous vous offrons automatiquement deux emplois en choix dans le domaine qui est celui de vos compétences. Nous vous donnons en même temps une formation qui est assurée à nos frais, aux frais de la collectivité, dans les filières que vous choisissez. Mais une fois qu'on vous a offert deux emplois, il est de votre devoir de l'accepter, à moins qu'il ne soit dans des conditions totalement anormales. Autrement dit, vous refusez un premier emploi, vous refusez le second dans les filières dans lesquelles vous êtes compétente et où vous avez reçu éventuellement un complément de formation et où il n'est pas impossible que nous vous donnions en plus, durant la première période d'emploi, un complément de formation. Mais attention, si vous refusez ces deux emplois, au deuxième, c'est terminé. C'est-à-dire que la période où vous allez avoir toutes les garanties contre le chômage et notamment les subsides vous permettant de vivre pendant le chômage disparaîtront. Autrement dit, il y a une espèce de contrainte qui est vous avez des devoirs, vous devez les remplir.
La France ne s'est pas acheminée petit à petit vers ce type de système en...
Pour le moment, nous en sommes très loin.
Tant les, quand même l'allocation de ressources à l'acceptation d'un emploi à la NPE, on prend
je
quand
ne
même
connais pas
de
détails, mais on est très très loin de la situation britannique et suédoise, extrêmement loin. La contrainte est beaucoup moins forte.
Il s'agit d'emploi ou de sous-emploi ?
Non, il s'agit d'emploi. Dans le système britannique, il ne s'agit pas de sous-emploi, il s'agit vraiment d'emploi correspondant aux compétences de la personne qui recherche. Là, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce plan. Ils ont un système extrêmement efficace avec un personnel très compétent qui leur permet d'assurer une contrainte beaucoup plus ferme que celle que nous offrons à travers notre système de lutte contre le chômage. Et cela, je crois, est tout à fait fondamental. Avec la philosophie, je le répète, qui est derrière. La nation s'occupe de vous, mais attention, vous ne pouvez pas rester chômeur pour le plaisir. C'est pas possible.
Donc cette crise du CPE, Pierre Bochet, n'aurait jamais pu voir le jour en Angleterre ou en Suède.
Je ne crois pas. Je pense qu'effectivement, elle eût été impossible. Ce qui est très frappant, c'est que le système suédois, qui n'a rien renoncé, si vous voulez, des fondements du socialisme, a permis de réduire le chômage d'une façon drastique, et qui plus est, non seulement le chômage, mais en même temps le déficit public. Car la Suède, il y a quelques années, avait un déficit public du même ordre que le nôtre. Il est actuellement très largement réduit par suite de cette politique de l'emploi.
Vous ne faites pas de corrélation, comme on le fait parfois, entre le montant, le taux des prélèvements obligatoires et le chômage.
Le taux des prélèvements obligatoires...
En Suède, il est exorbitant. Enfin, très élevé.
Ça dépend.
Non ?
Non, il n'y a pas une différence fondamentale.
Avec la France, ce n'est pas le premier pays...
Non, il a été diminué sensiblement. Non, ce n'est pas le premier pays en dépenses publiques. La seule chose qui reste différente avec la France, au moins dans les 5 dernières années, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, c'est le secteur public. Le secteur public suédois, et notamment les entreprises publiques, n'ont pas été réduites. C'est-à-dire que la réduction du secteur public en Suède a été beaucoup plus faible qu'en France, mais la gestion du secteur public a été rendue beaucoup plus drastique qu'elle ne l'était en France.
Alors justement, c'est là que je voulais en venir précisément sur cette question. En France, on voit les choses un peu de manière, il y a la France exposée et la France protégée.
Oui.
Et on pense que la résolution de nos propres turpitudes passerait par la cassure de cette opposition, en finir avec cette opposition. En Suède, on a réussi à maintenir un service public d'une taille proportionnellement comparable à la nôtre.
Oui.
Sans que cela nuise au bon fonctionnement de l'économie.
Tout à fait. Mais ils ont modifié sensiblement les modes de fonctionnement des entreprises publiques, c'est-à-dire le secteur, disons, industriel de l'entreprise publique.
Mais il n'y a pas le même statut de la fonction publique, par exemple.
Le statut de la fonction publique, je n'en connais pas le détail, mais pour les entreprises publiques, il est certainement beaucoup moins, entre guillemets, privilégié qu'il ne l'est en France. En France, nous avons en plus effectivement toutes les rigidités que vous voulez signaler, n'est-ce pas? Mais je pense que le facteur fondamental pour les jeunes, c'est cela. C'est qu'il existe une contrainte, liée d'ailleurs à des allocations chômage très fortes aussi longtemps qu'on peut être redevable de l'allocation de chômage. Il existe une contrainte beaucoup plus forte à la recherche d'un emploi, une contrainte, je le répète, appuyée sur une philosophie générale qui est non seulement l'état des devoirs, mais vous avez des devoirs, et parmi les devoirs, vous en avez un qui est de vous former dans les secteurs où il y a des filières d'avenir. Or là, nous sommes dans une situation, et c'est le deuxième point, je crois, qui nous différencie des pays du nord de l'Europe et en même temps des États-Unis, c'est le fait que nous avons un système de formation qui est très déconnecté du problème des filières d'emploi. Alors là, je dois dire que j'ai une expérience, il n'y a pas longtemps, tout à fait intéressante. Le Rotary Club, dont je n'attendais pas qu'il prenne cette initiative fort heureuse pour Paris, a eu l'idée de faire un forum à Paris sur les nouveaux emplois auxquels il a convié des escouades de jeunes venant de différentes filières, du secondaire et du supérieur, jusqu'à l'École Polytechnique qui a envoyé une délégation.
C'était le 10 mars au Sénat.
Voilà.
Le forum des nouveaux métiers.
C'est ça. J'étais là, on m'avait demandé de parler devant cette foule qui était tout à fait, et le soir encore, qui était tout à fait intéressante. Contrairement à mon attente, ce colloque a eu un succès fantastique. La salle, je ne me rappelle plus le nom, ce nom ne me revient pas, de la grande salle du Sénat était archi pleine. Et il y a eu des témoignages extraordinaires de jeunes gens sur la façon dont ils avaient trouvé leur emploi. Et la façon dont les universités, notamment, ne préparaient pas à ce nouvel emploi. Dénotant, en quelque sorte, ce qui est nouveau, et ça, il faut être très optimiste sur ce plan-là, sur le souci des jeunes de n'entrer dans des filières que dans celles où il y a un avenir. Ça, c'est un phénomène totalement nouveau, à mon avis, qui date de 5-6 ans, et qui a conduit, et qui, en même temps, a dénoté les très grande faiblesse de notre système d'enseignement supérieur, et disons de fin du secondaire, et technique et supérieur. Il n'y a pas d'information sur les filières ouvertes. Il y a de multiples filières qui continuent à rechercher du personnel et qui n'en trouvent pas. Ces filières, personne n'est capable d'informer le public de jeunes gens sur ces filières ouvertes.
C'est-à-dire que ce ne sont pas des filières universitaires la plupart du temps. Ce sont des filières commerciales, des filières artisanales, des filières...
Permettez-moi de vous détromper sur ce point. Je suis très frappé d'un autre phénomène que j'ai découvert à cette occasion. C'est qu'il existe actuellement, aux frontières des universités, une série de petites filières spécialisées qui sont méconnues, que personne n'affiche, qui ont parfois deux défauts majeurs, mais qui ne sont, je dirais heureusement pour l'université, pas connus. Le premier, c'est non seulement une sorte de clandestinité, l'autre, c'est les coups de faramineux que ces groupes demandent pour leurs élèves à partir d'un concours d'entrée, souvent difficile, qui fait que ces enseignements spécialisés supposent que les familles aient premièrement une bonne information, ce qui privilégie les familles informées, les enfants de familles informées, et deuxièmement, qui est de l'argent.
Exemple.
Je suis incapable de vous dire des chiffres, je les donnerai pas, même
non,
si...
Non, mais des exemples de filières ou de ces...
Ah ben, filière, par exemple, là que je tire d'exemples familiaux, la filière de traduction simultanée dans toutes les directions, traduction, etc., dans tout trilingue, le trilingue ou le quadrilingue, et vous avez maintenant pas mal de filières quadrilingues aux frontières des universités, hein, et qui sont orientées essentiellement vers, dans un monde mondialisé, par de mesmélonasme, est très important que nous ayons des étudiants capables de parler 3 à 4 langues couramment. N'est-ce pas? Ceux qui en font le métier, d'ailleurs. Et ceux qui, en plus, même sans en faire le métier, auront à traiter dans ces 2 ou 3 langues. Or, ces filières existent. Vous avez des filières spécialisées d'informatique mathématique, que j'ignorais totalement, et qui existent aux frontières, je dis bien aux frontières, qu'elles ne sont pas toujours intégrées dans les licences reconnues par les universités. Elles ne sont pas, le plus souvent d'ailleurs, encouragées par les chambres de commerce qui n'en peuvent plus d'une charge dont ils considèrent à juste titre qu'elle est celle de l'éducation nationale. Mais il n'en reste pas moins que ces filières spécialisées existent en informatique mathématique qui sont très brillantes en France, regroupant des étudiants d'université, des polytechniciens, voire des normaliens, et qui préparent par petits groupes des équipes spéciales qui entreront au CNRS, parfois sans concours, par la suite d'accord avec le CNRS ou avec quelques grandes firmes publiques ou privées.
Mais Pierre Bochet, ça concerne déjà des gens très diplômés?
Non.
Donc une minorité quand même qui accède à cette forme de filière qui ressemble à une formation supérieure pratique?
Non, ça s'adresse à des gens qui sortent du baccalauréat.
Directement?
Directement. Et qui font une licence qui les spécialise lentement vers quelque chose de plus étroit. Mais effectivement, l'élimination est énorme. Et ça soulève un autre problème. Peut-on continuer à charrier dans nos universités, enfin quelque chose comme 25 000 étudiants, si je ne m'abuse, à Paris actuellement, alors que nous savons pertinemment qu'il en débouchera 2 000 à 3 000?
Là, c'est une immense hypocrisie.
C'est un point.
Pour masquer le chômage?
Oui, certains emplois, et moi je l'ai employé à un moment, je m'en repens d'ailleurs, l'idée que ça permettait de diffuser une culture de masse qui autrement n'existait pas. Faut pas non plus oublier totalement cet aspect. Mais il n'en reste pas moins qu'au point où on en est arrivé, c'est ne pas trier d'une façon plus sérieuse. Et alors aboutit à faire une espèce de sélection, une hyper-sélection.
Par l'échec.
Par l'échec, et qui aboutit à une sélection parallèle à celle des universités et des grands corps.
Notre invité pour cette émission éclairage consacrée au CPE, c'est Pierre Bochet. On le retrouve dans un instant, juste après une courte pause.
L'histoire des hommes, l'histoire des sociétés, l'histoire des mentalités, l'histoire des lieux, l'histoire des événements. C'est Un jour dans l'histoire, en direct ou en médiathèque, sur Canal Académie.
Éclairage consacré à la crise du CPE sous l'angle de l'analyse de notre système d'éducation et l'analyse des vrais débouchés, des vrais métiers et des nouveaux visages de l'entreprise. Notre invité est Pierre Bochet, membre de l'Institut et docteur en économie. Vous qui avez présidé l'Université Paris 1, oui. C'était entre 79 et 81,
oui.
Vous avez senti que la situation a énormément évolué par rapport à l'époque où vous y étiez ou que l'université est restée très figée dans ses domaines parce qu'elle a aussi bougé l'université?
Oui. Alors, certainement, aux marges, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a bougé. C'est-à-dire que vous avez des équipes d'enseignants, qui se sont pris au jeu et qui consacrent vraiment leur vie à des filières. J'y crois d'autant plus que, sans vouloir me vanter, Dieu sait que c'était peu de choses, quand j'ai cessé d'être président, j'avais fondé une filière de formation au transport qui n'intéressait personne en économie. Dans les universités, le droit du transport est très développé, l'économie des transports ne l'était pas du tout. J'avais fondé un DESS spécialisé, avec l'appui de 2 chefs d'entreprise, de très grandes entreprises que j'avais connues à l'ENA, et qui m'ont considérablement aidé à faire une sorte de formation professionnelle. Je ne triais pas les gens à l'entrée d'après des critères universitaires. J'ai pris des gens qui n'avaient aucune licence. Et sans parler du doctorat français ou étranger. Le critère de nationalité ne comptait pas. J'en ai commencé par une 30-35 étudiants. Je me suis aperçu que les débouchés étaient tels que j'étais incapable de fournir des débouchés. Et c'est toujours vrai. Dans les métiers du transport, il y a un déficit intellectuel énorme, des possibilités de débouchés considérables qui ne sont pas comblées. Et il y a très peu de filières. Vous avez l'AFT, l'Association pour la formation dans le transport, qui a contribué, ils m'ont aidé d'ailleurs un moment à monter cette affaire, ils y contribuent. Mais au niveau des IUT et de l'enseignement supérieur, l'effort actuel est en économie totalement insuffisant.
Autrement dit, si je vous suis bien, Pierre Bochet, il y a des débouchés.
Il y a des débouchés.
On ne sait pas les identifier.
Oui.
Et on ne sait pas aiguiller les étudiants vers ces bons débouchés.
D'autant que, jusqu'alors, je vous répète, les étudiants étaient extrêmement peu soucieux de trouver, de choisir leur carrière en fonction des débouchés. Ils l'étaient plus en fonction du secteur qui plaît, si vous voulez. Ce qui ne veut rien dire quand on y réfléchit, car il faudrait savoir qu'est-ce que comprend ce secteur. Bon, j'ai eu des exemples, justement, des témoignages à ces journées sur les nouveaux emplois qui montrent totalement surpris. Il y a l'un des jeunes gens qui s'est présenté en disant « Moi, je fais ma propre entreprise », qui n'était plus le cas d'ailleurs, en disant « Écoutez, moi, j'ai une licence de droit très moyenne, je l'ai faite un peu comme ça, à la sortie, je me suis dit où je vais aller ». Alors, il m'a dit, il disait « Il y a des débouchés dans l'armée, j'y suis allé, j'étais en Kosovo ». Puis, au bout d'un certain temps, ayant bourlingué, je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. Sa femme lui a dit, tu rentreras à Paris ou alors on divorce. Ça peut pas continuer, on peut pas faire le monde toute notre vie. Et finalement, il est rentré en banque au moment où la banque se préoccupait beaucoup de quelque chose de totalement nouveau, qui est le blanchiment d'argent au niveau des sous-préfectures. Ce qu'on ignore, c'est le blanchiment d'argent ne se passe pas seulement dans les Caraïbes aujourd'hui. Il a lieu dans tous les lieux. Vous avez des petites entreprises, des petits commerces et autres qui, avec la facilité de circulation internationale des flux financiers, sont en train de truander souvent leur propre banque. Autrement dit, vous avez un contrôle bancaire énorme sur ce... Bon, vous avez là des débouchés, il y est entré, il m'a dit, il y a autant de places qu'on veut. La banque ne trouve pas de gens spécialisés.
Bien sûr, c'est ouvert à des personnes qui ont quand même déjà une formation, ce sont des formations quand même assez pointues.
Au départ, il n'y a pas tellement de formation, c'est-à-dire que ce sont des gens auxquels il faut une licence en droit, en l'espèce, en droit fiscal notamment, n'est-ce pas ? Mais point à la ligne.
Mais la question de l'emploi, Pierre Bochet, on recherche de l'emploi qualifié.
Oui.
On ne recherche pas de la main-d'œuvre non qualifiée. Or, quand vous avez fait une formation universitaire, que vous arrêtez au seuil de la licence, de la maîtrise, vous n'êtes pas qualifié.
Si, de plus en plus, parce que vous avez de plus en plus de maîtrises spécialisées, ça commence, hein, je ne vous dis pas que les choses sont faites. Les emplois au sortir des IUT, par exemple, je connais des gens qui ont fait des carrières et qui font des carrières très brillantes après l'IUT, l'IUT c'est 3 ans. Et vous avez des IUT spécialisés, j'ai une de mes anciennes élèves qui en dirige un en Bretagne, des filières spécialisées en transport et dans tel aspect du transport. Et qu'elle me dit... Je n'ai pas suffisamment de monde pour occuper les emplois qui me sont ouverts.
Est-ce que cette crise du CPE dont nous parlons,
oui. hein,
qui sert de, j'allais dire, de prétexte à notre analyse de la situation de l'emploi, ne concerne pas, somme toute, qu'une frange très minime de personnes, d'étudiants, ceux des facultés de lettres essentiellement, de facultés peut-être d'histoire, de sciences humaines ou de psychologie, qui se retrouvent effectivement dans des filières où là les débouchés sont très très restreints?
Il est certain que si les sciences humaines ont été à la pointe, je dirais, du refus du CPE, elles n'ont pas tout de même été les seules. Hein. Il y a un mouvement d'ensemble, je crois qu'il ne faudrait pas tout confondre.
Oui, mais les facs de droit, pas beaucoup, par exemple. Hein.
Non, pas du tout, pour
pas
certaines.
Du tout, hein.
Pratiquement pas. Les facs des copeaux, beaucoup moins. Vous avez vu qu'hier, à Tolbiac, ce sont les étudiants qui ont chassé les bloqueurs. Hein, ce qui est quand même assez nouveau aussi, hein, comme perspective. Mais, ce qui existe encore, c'est qu'il n'y a pas d'informations, même dans ces domaines, organisées au niveau des universités pour informer les étudiants. Et ça, c'est une lacune que le ministère de l'Éducation nationale et les universités n'ont absolument pas comblée. L'étudiant lambda qui vient d'une famille non informée, ne sait absolument pas où s'adresser dans la plupart des universités pour dire « dans telle filière, je déboucherai ». Il y a, le manque d'information est absolument dramatique. L'opposition avec les universités du Nord, c'est de l'Europe ou des États-Unis est flagrante. Moi, j'ai fait une année à Columbia University. Il n'y a pas de comparaison. C'est un vrai drame. Et un drame qui est beaucoup plus profond, c'est que l'administration de l'éducation nationale et l'administration des universités, il faut bien le dire, est par rapport aux besoins ridiculement faible.
On sait bien que vous avez parlé des universités américaines. Les moyens ne sont pas du tout les mêmes, ne sont pas du tout comparables. Le coût des études non plus, mais l'étudiant se rattrape largement après.
Tout à fait. Ceci dit, c'est vrai que les moyens ne sont pas les mêmes, mais en partie par suite de refus stupides d'augmenter les droits d'entrée à l'université. On les doublerait, vous pourriez commencer, et on assoupirait le statut du personnel. Ça, c'est un tout autre chapitre. Il ne serait pas difficile de monter une administration efficace. Or, je dois dire qu'actuellement, et sans jeter la pierre à qui que ce soit, l'administration de la plupart des universités est parfaitement inefficace dans ces domaines, parfaitement. Et l'étudiant est totalement paumé. Je ne vous raconterai pas des incidents que j'ai connus à l'époque. C'est hallucinant, vous n'imaginez pas la difficulté pour l'étudiant de se renseigner à la veille de la rentrée sur les cycles qui existeront et qui n'existeront pas, sans parler des cercles spécialisés. Il n'y a aucune information précise.
Ce qui est quand même révélateur au fil de notre discussion, Pierre Bochet, c'est que de la crise du CPE d'où nous sommes partis, au lieu d'évoluer vers l'entreprise qui a cristallisé toute la vindicte des étudiants,
oui,
on a dérivé vers l'université, vers
tout
la formation
fait
d'État.
Tout à fait.
Donc c'est l'État qui porte cette responsabilité, ce n'est pas le monde de l'entreprise.
Non. Je crois que bon, le monde de l'entreprise n'est pas blanc. Je n'ai pas parlé par des stages. L'utilisation des stages
abusive
par les entreprises a été scandaleuse, plus qu'abusive, pour un certain nombre d'entreprises. J'ai pas à me plaindre puisque mon premier emploi a été celui très bref d'ailleurs dans une très grande entreprise d'aujourd'hui de cosmétiques, dont au bout de 8 jours, j'ai déclaré que je n'y rentrerais pas, et dont le patron, qui avait un grand nom, avec beaucoup, alors que j'étais, ma mère était veuve, j'avais aucune relation sociale, m'a rendu le chèque en me disant, je vous avais donné un chèque d'un mois, vous voulez faire autre chose, c'est pas à moi d'en juger, voilà le chèque. Je me suis payé un début de 2 chevaux avec ça. Les situations sont extraordinairement diverses. Mais la structure de l'administration actuellement, pas partout, il y en a de meilleurs que d'autres. Moi, je connais des universités comme celle de Pau qui sont des modèles sur le plan de l'organisation et de l'administration. Mais c'est l'exception dans un monde inorganisé au point de vue administratif.
Donc là, ça supposerait plus d'une révolution de mentalité,
oui, tout à fait,
dans l'organisation.
Oui.
Bon, là, reconnaissance, la validité nationale des diplômes, vous ne la remettez pas en cause, vous ne voulez pas privatiser les universités, les mettre en concurrence les unes avec les autres.
Je dois reconnaître qu'effectivement, le secteur privé prend parfois la forme de choses un peu scandaleuses, comme par exemple dans le Wall Street English, la réclame. Je ne connais pas qui a ça, mais j'ai appris que c'est un grand groupe qui a ça derrière. Garantie sur Dieu sait quoi, enfin c'est à mon avis c'est inadmissible ce genre de choses. Même si la formation est bonne, on ne fait pas ce genre de publicité.
Donc qui vous garantit de parler couramment l'anglais de Wall Street, c'est un exemple que vous donnez. Hein,
non, tout à fait.
Et vous voulez montrer par là que certaines universités abusent de leur...
Non, certains privés.
Privé.
C'est totalement privé.
Oui, alors privé.
Des privés. Mais il ne fait aucun doute que par ailleurs, les enseignements privés permettent tout de même aux frontières, là encore, de combler des lacunes inadmissibles de l'enseignement public. Je ne fais pas du tout... Mon propos n'est pas du tout contre l'enseignement privé. Actuellement, d'ailleurs, l'enseignement privé universitaire se développe, malheureusement payant, et d'autre part, sur lequel il faut être informé.
Orientation, sélection, ce sont en quelque sorte les deux maîtres mots.
Tout à fait.
L'orientation, beaucoup plus tôt, alors à l'université, mais aussi...
Dans le secondaire.
Dans le secondaire, parce que là, elle fait défaut complètement, hein, l'orientation.
Je vais dire à la Défense de Paris 2, de Paris 1 du moins, qu'un enseignant que j'ai très bien connu, passé ses années dernières, il ne le fait plus parce qu'il a un autre poste dans l'université, a passé dans les lycées du quartier latin pour dire, voilà, je suis de Paris 1 à la présidence, il n'est pas président, je vais, voilà ce qui se passe. Et à chaque fois, il recrutait des gens de valeur uniquement par sa présence dans les meilleurs lycées du quartier latin. C'est vous dire qu'il y a un effort énorme à faire, et il y a une réponse de plus en plus sensible d'une population étudiante qui veut savoir où sont les débouchés, et qui ne le sait pas.
Est-ce qu'on, vous allez trouver ma question cynique, est-ce qu'on ne lui masque pas volontairement? Est-ce que ceux qui ont accès à l'information ne se gardent pas volontairement les filières qui débouchent? La France est un pays, vous savez, très... figés dans les grands corps et par strates. Oui, et ceux qui ont accès à l'information, l'information c'est le pouvoir, le savoir c'est le pouvoir.
Je ne pense pas regarder ce qu'a fait Sciences Po, qui est quand même un modèle dans le genre de la formation étendue. Pour le moment c'est microscopique par rapport aux besoins. Mm-hmm. Mais l'ouverture à la banlieue, l'ouverture à d'autres groupes, le développement des cycles mixtes avec des universités étrangères, sur ce plan-là, Sciences Po est un modèle. Je ne pense pas qu'il redoute beaucoup une concurrence étrangère, hein, c'est pas, parce que pour le moment, il est, grâce à cela, il a une aura qui ne lui est pas enlevée. Et aussi, il faut bien le dire que, il a un atout fantastique. Il a échappé à la loi d'orientation. Il faut pas l'oublier. Sciences Po est une des rares filières qui a échappé à la loi d'orientation. Ils se sont battus pour y échapper.
Est-ce qu'il lui a permis d'échapper à quoi?
Eh bien, aux conditions officielles de délivrance des diplômes, etc., etc., et de recrutement. Et je pense aussi, mais là, je m'avance, ce que je comprends, les conditions de rémunération. C'est pas scandaleux du tout, mais enfin, il y a une série de contraintes qui brident les universités à un point inadmissible et qui empêchent l'université, notamment au niveau administratif et au niveau du recrutement du personnel, de pouvoir épanouir leur action, c'est sûr.
Pierre Bochet donc est avec nous, c'est cet éclairage qui est consacré à la crise du CPE, on prend un petit peu de hauteur pour essayer d'en voir tous les aspects, en particulier ceux sur lesquels vous avez bien insisté, c'est la rigidité du système et la mauvaise information sur les filières, sur les vrais débouchés. Est-ce que l'on peut faire un point sur les nouveaux visages aussi de l'entreprise, du monde qui bouge autour de nous, de la notion aussi d'économie nationale sur lesquelles, notion sur laquelle vous avez également travaillé. Est-ce que tout cela a un sens? On est dans un monde de flux totalement décloisonné où tout le monde est en concurrence avec tout le monde. Ça a quand même changé aussi et ça change quand même la donne.
Oui, c'est vrai. Bon, je vous parlerai pas tellement des changements de structure d'entreprise. Elles changent actuellement aussi en partie dans un sens, enfin, d'ouverture incontestablement, mais en même temps, il reste qu'elle est, nous sommes dans un monde capitaliste au niveau de l'entreprise, sauf l'entreprise publique. Je veux dire par là que je ne suis pas personnellement convaincu par la privatisation des entreprises publiques, notamment ni pour l'EDF, ni pour l'aéroport de Paris. Mais ça, c'est une option personnelle qui ne remet pas en cause les changements de statut profonds dont elles ont besoin. Mais passer nécessairement par la privatisation et parfois par la privatisation totale, je ne me sens pas à l'aise.
Ça doit rester un monopole lié à la souveraineté nationale?
Au contraire, non. Et le drame, justement, c'est que l'on convertit en entreprise privée, ou ayant tout l'apanage de l'entreprise privée, les possibilités dans des secteurs où la suppression du monopole est impossible. Par exemple, le monopole de l'aéroport de Paris.
Ça restera un monopole de toute façon.
On peut pas faire autrement. Donc, laisser aux mains du privé, même avec le fait que l'on prétende qu'on conservera, que l'État conservera la main sur la politique générale par une appropriation majoritaire de la politique de ces entreprises privatisées, ce dont je ne suis pas convaincu, il ne suffisait pas avant, même qu'elles soient nationalisées pour que l'État les dirige, comme chacun sait. Autrement dit, je ne suis pas sûr qu'on évite d'avoir demain des monopoles qui restent des monopoles parce qu'on ne pourra pas faire autrement, et des monopoles qui seront entre les, disons, sous une certaine pression d'un monde qui est fondamentalement un monde capitaliste dans la privatisation. Ne me croyez pas marxiste autant soit peu, je ne le suis pas, j'ai jamais été, grâce à la lecture dans mon jeune temps d'ailleurs, et grâce à mes professeurs qui étaient à l'époque abonnés à 7, qui était une revue des dominicains d'avant-guerre, et qui avait beaucoup développé les encycliques papales contre le nazisme et contre le communisme. Et j'ai été formé dans le secondaire à cette école anti-nazie, anti-totalitaire, ce en quoi je ne serai jamais assez reconnaissant à mes professeurs.
Donc les privatisations, pour se résumer, la privatisation à outrance, non. Les monopoles doivent être aux mains d'un État national fort qui garantit ainsi sa souveraineté.
Il faut briser le monopole, je ne suis pas du tout.
Il faut briser le monopole.
Quand on le peut. Mm-hmm. Quand on le peut et quand c'est du point de vue de l'intérêt général non nuisible.
Mais depuis à peu près 1986, on va situer à peu près cette date, l'ouverture des frontières européennes, le fait que l'Europe se soit engagée vers une politique d'ouverture au monde beaucoup plus marquée, nous oblige à détricoter notre système français
Sûrement.
Sous la pression européenne, on est obligé
de faire ça. Je suis tout à fait favorable à cette évolution. Je pense que nous n'avons pas mesuré, beaucoup de Français, le vote, malheureusement, qui est de anti-constitution de la communauté, la dernière constitution proposée au niveau de la communauté européenne, est à mon avis une catastrophe, et elle reflète une mentalité qui m'inquiète énormément, et qui est, d'après les quelques sondages que j'ai pu avoir, une mentalité, paradoxalement, de gens nantis, qui vivent quand même de profits d'entreprise qui sont très largement internationalisés. Alors là, je dois dire qu'il y a une contradiction entre l'être et l'avoir qui me semble assez regrettable. Bon, c'est un autre problème. Mais ce qui se passe va au-delà de ça. Nous vivons en fait dans un monde... Moi, j'ai enseigné la comptabilité nationale depuis Lille jusqu'à Paris, quand j'étais à Lille, et ensuite à Paris, où j'ai eu cours de comptabilité nationale. Et... la comptabilité nationale avait un sens parce qu'il y avait une économie nationale. Si vous voulez, la partie des échanges extérieurs était marginale. Le compte courant avec le reste du monde était marginal.
C'était jusqu'à quand ça ?
Eh bien, petit à petit, mais beaucoup plus depuis les années, disons, 90-95, depuis 1995, il existe maintenant deux économies qui sont d'une part une économie nationale encore relativement fermée en elle-même au niveau de la production de toutes petites entreprises de commerce et de tout petits centres de production. Et au-delà, même au niveau de la moyenne entreprise, de la grande entreprise, vous avez une internationalisation de la firme et aussi une internationalisation des facteurs de production de la firme. Qu'il s'agisse de la main-d'œuvre des capitaux, actuellement, il existe un monde international, non seulement européen, mais international, qui n'a plus tellement de... dont je veux dire la connaissance reste totalement insuffisante. C'est de là coexiste. J'ai lu tout à fait récemment un article dans une revue internationale sur ce sujet. Il existe au fond deux économies qui coexistent, qui ont des relations d'échange, mais dont on ne sait pas quelles elles sont, ni au niveau financier, ni au niveau de la main-d'œuvre. Une partie de cette main-d'œuvre est en France même. Une autre partie de la main-d'œuvre dont on se sert finalement par sous-traitance à l'étranger est à l'étranger. Tous ces échanges, au niveau de la main-d'œuvre, on peut encore, je pense, chisaler à peu près de quoi l'on parle, l'importance de la main-d'œuvre étrangère qui travaille pour les entreprises françaises en France. Mais par exemple, au niveau des flux financiers, je défie quiconque de pouvoir actuellement donner un schéma précis des échanges de flux financiers entre la nation et l'étranger. Et des flux financiers à l'étranger qui sont produits par des capitaux de la nation.
Autrement dit, la comptabilité nationale aujourd'hui n'a plus guère de sens.
Non, je pense qu'elle en a toujours, mais qu'elle devrait être... qu'elle devrait être, si c'était possible, et je doute que ce soit possible, complété par une comptabilité d'un monde qui existe quelque part, mais qui n'est plus dans la nation.
Là, ça complexifie quand même énormément les choses. Puisque
énormément.
Ça veut dire, ces deux économies, pourquoi deux et pas trois ou quatre c'est deux types d'économies ?
Non, c'est parce que la nation conserve beaucoup de privilèges. C'est quand même elle qui décide de la paix ou de la guerre. C'est elle qui décide du niveau des salaires. C'est elle qui... en grande partie.
Oui, enfin du salaire minimum.
Mais... Mais c'est tout de même fondamental.
Hein. Oui.
Du salaire minimum, c'est elle qui décide du nombre d'heures de travail, etc. Pour nous, sous réserve de l'Europe, qui de plus en plus essaye, pas toujours avec succès, hélas, de contraindre l'économie nationale à suivre sa propre régulation international à l'intérieur de l'Europe.
Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, puisque le mot paradoxe, vous l'avez employé à plusieurs reprises tout au long de cette discussion, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre le fait que vous souhaitiez que certains secteurs stratégiques restent propriété de l'État, monopole, et le fait que l'Europe,
non,
précisément...
Pas monopole.
enfin monopole, soit on brise le monopole, mais que ça ne soit pas privatisé.
Oui. Et pas totalement privatisé.
Pas totalement. Soit et l'attitude de la politique de l'Europe qui pousse un petit peu derrière notre économie pour ouais. que, en particulier sur les services publics par exemple,
oui.
pour que ces services publics, ce qui demeure propriété collective, eh bien, soit un petit peu décongestionné et passe à, dans le secteur capitaliste.
Oui, je n'irai pas aussi loin que l'Europe, mais je pense qu'il y a un effort qu'il était indispensable de faire en France également, et que la contrainte de Bruxelles a été jusqu'alors plus favorable que défavorable à cette évolution nécessaire. Demain, qu'en sera-t-il ? Je suis incapable de vous le dire. Je pense que nous ne pouvons pas tout accepter de Bruxelles, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est grâce à Bruxelles que nous arrivons à éviter des libéralisations dans les échanges internationaux qui seraient dramatiques. La force de Bruxelles en tant que groupe pour résister à la pression prétendument libérale des États-Unis au plan mondial est fondamentale pour la survie de l'Europe. Car le problème de l'Europe, c'est qu'elle n'est pas, comme les États-Unis, un ensemble unifié. Pour le moment, c'est encore dans bien des secteurs un ensemble de nations qui coexistent. L'économie européenne n'existe pas encore. Quand les États-Unis parlent, ils parlent d'une économie unifiée, où seulement 25% de l'emploi est fait à l'étranger. Chez nous, c'est plus de 55% de l'emploi qui est fait à l'étranger, non seulement de chacune des nations, mais de l'Europe. Avec des capitaux qui a plus de 50% pour les grandes firmes, et les firmes du CAC 40, par exemple, sont des capitaux étrangers qui travaillent en France. Autrement dit, les États-Unis, c'est du capital américain, pour des tas de raisons, avec les fonds de pension, leur politique internationale, puis enfin, la masse, je regrette, la masse a une force.
Pourtant, cette masse, elle existe quand même du côté européen. Le marché européen est sur le papier plus vaste.
Il est sur le papier plus vaste, mais par exemple, au niveau financier, nous avons une prégnance beaucoup moins forte sur l'ensemble des économies européennes que dans, vis-à-vis de l'économie américaine. Autrement dit, les États-Unis ont encore, je dirais, une politique nationale. Ils peuvent se permettre d'avoir une politique nationale prétendument plus ouverte, ça sera à voir en détail. Parce que les facteurs de production sont américains. Aucune nation européenne ne peut se permettre de dire ça.
On a le sentiment, puisque l'on parle d'Europe, mais ça joue bien sûr sur notre vie de tous les jours, et en particulier sur la crise du CPE, puisque les questions d'emploi sont tributaires ouais. également des questions européennes. On assistait quand même à un spectacle un peu triste, celui de la guerre que se sont livrées certaines nations pour le contrôle de certaines entreprises, l'idée de certaines fusions entre l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la France sur des secteurs stratégiques. Tout le monde est favorable à l'Europe à partir du moment où l'Europe
c'est
fait dans le sens que
c'est lui.
Ces pays souhaitent.
Oui, pas tout à fait, parce que ça a été pire. Par exemple, entre les Allemands et les Allemands se sont opposés très longtemps à toute fusion d'entreprises européennes françaises avec des entreprises allemandes. Ils ont tout fait pour les barrer. Hein. Ça, c'est en train de changer. L'Espagne, qui était un peu isolée, est maintenant en train de s'ouvrir. Vous avez vu avec l'Italie, notamment, pour faire des OPA communes sur des opérations extérieures, sur des entreprises extérieures. Vous avez de plus en plus de fusions d'entreprises européennes. Je sais qu'un grand chef d'entreprise, j'ai beaucoup d'amitié pour un certain nombre de mes amis que j'ai connus à l'ENA et qui sont devenus de très grands chefs d'entreprise. Et l'un d'eux me disait, je lui demandais, mais pourquoi est-ce que finalement, et malgré tous les dérapages, vous préférez faire des fusions avec des entreprises européennes? C'est pas toujours vrai de tous les pays. L'Allemagne longtemps a résisté à cette tendance. Mais les entreprises françaises ont accepté assez vite des fusions avec d'autres entreprises européennes, ce qui n'a pas été le cas de toutes les grandes entreprises européennes. Et plutôt que de faire des fusions avec des entreprises dans le reste du monde, notamment aux États-Unis, ils m'ont dit, et celui qui me disait ça était lui-même patron d'une très grande entreprise ayant une grande filiale américaine, il m'avait dit, vous savez, quoi qu'on en fasse, nous avons été élevés comme Européens. Et finalement, dans le débat, même pour ceux qui, comme moi, parlent couramment anglais, nous nous entendons mieux avec des Européens qu'avec d'autres.
C'est ça. Il reste quand même une forme d'identité commune à l'Europe.
Tout à fait, il y a une culture commune.
Culture européenne. Notre invité pour cette émission éclairage consacrée au CPE, c'est Pierre Bouchet. On le retrouve dans un instant, juste après une courte pause.
Un nouvel Espace est lancé sur le site de Canal Académie, l'espace Apprendre, un espace d'écoute active pour vous, professeurs et enseignants, élèves et étudiants, avec des suggestions d'activités pédagogiques à partir d'extraits d'émissions. Un espace d'auto-formation à distance, ouvert à tous, téléchargeable facilement et gratuitement, avec l'espace Apprendre de Canal Académie, établi en partenariat avec le Cavilab. Vous allez découvrir le plaisir d'apprendre.
Éclairage consacré à la crise du CPE sous l'angle de l'analyse de notre système d'éducation et l'analyse des vrais débouchés, des vrais métiers et des nouveaux visages de l'entreprise. Notre invité est Pierre Bauchet, membre de l'Institut et docteur en économie. Les économies européennes sont aujourd'hui aussi un peu en concurrence. L'Europe a aussi mis en concurrence un peu les économies sur le plan fiscal, par exemple.
Tout à fait.
Sur le marché de l'emploi, puisqu'on parle du CPE, est-ce que nos étudiants ne sont pas en concurrence avec l'étudiant espagnol, italien, allemand, néerlandais, par exemple, qui parle 4 langues?
Tout à fait. C'est vrai. Et malheureusement, pour le moment, nos étudiants n'ont souvent pas conscience. Ça, c'est la faute des enseignants, n'est-ce pas? De la réalité internationale. C'est en train de changer très vite. Je vois à Paris 1, en économie par exemple, actuellement en licence, la majorité des cours est faite en anglais par des Français parlant couramment anglais, des enseignants français rentrant aux États-Unis. C'est tout nouveau, ça date d'un an. Autrement dit, il y a des choses qui muent, qui muent assez vite. Mais il est certain que nos étudiants, de par leur famille, de par aussi, il faut bien dire, il fait bon vivre en France. Beaucoup mieux qu'ailleurs. Et quoi qu'ils en disent, beaucoup d'étudiants sont très heureux de rester en France. Ils tiennent pas tellement à partir vadrouiller dans le reste du monde. Je crois que sur ce plan-là, les choses n'ont pas beaucoup changé. Je le regrette infiniment, mais les enseignants, je le répète, ont une part de responsabilité dans cette affaire.
On ne regarde pas plus loin que le pays dans lequel on vit.
Si, on voyage pour du tourisme, mais on ne va pas plus loin.
Et je prenais l'exemple de l'étudiant néerlandais qui parle par exemple néerlandais, allemand, anglais, puis autre langue. Lui va songer à voyager.
Tout à fait.
Il vit déjà leur international, donc il a une avance sur nous.
Alors, il ne faut pas généraliser pour les Français. Moi, je marque tout de même une tendance. Moi, j'étais aux États-Unis au sortir de ma licence grâce à une bourse en 1946. Vous voyez, c'est pas d'hier, il y a plus d'un demi-siècle. Et j'avoue que le profit que j'en avais retiré me fait dire aux tous les étudiants que je rencontre, partez à l'étranger 1 ou 2 ans. C'est le minimum. Moi, j'ai assez 1 an, ça a été une erreur. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'aller au Maroc 2 ans, mais il fallait aller davantage encore. Et je pense que c'est le plus grand bénéfice qu'ils peuvent retirer de leurs études.
Ça serait une suggestion que vous pourriez apporter au président d'université, à l'enseignement d'une manière générale, d'imposer, par exemple,
Nous parlions des filières marginales. Leur succès, c'est ça. Oui. C'est que beaucoup de ces filières imposent plusieurs mois et souvent 1 an. Et les bourses Erasmus, sur ce plan-là, sont totalement insuffisantes. Par rapport même à la demande étudiante et aux besoins, totalement insuffisantes. Mais il n'en reste pas moins que ça, c'est un vu indispensable. C'est ce qui fait d'ailleurs la cherté de ces cycles. C'est parce que ces cycles sont aux frais des familles.
Et que très onéreux.
Écoutez, certains de ces cycles tournent autour des 20 000 euros par an. Pour des parents de conditions modestes.
Mais il faut les sortir.
Alors, il y a les crédits bancaires, bien sûr. Mais quand vous êtes en début, vous craignez beaucoup de vous engager avec un endettement, même à 0%, comme le font parfois les banques, ou tout près de zéro. Ça fait réfléchir à 2 fois. Les gens hésitent.
Pierre Bauchet, on arrive un peu au terme de cette émission. Il nous reste quelques minutes. Quels sont, pour sortir de cette crise du CPE, si je puis dire, quels sont, si je suis étudiant, les outils dont je dispose, les réflexes que je peux adopter? Là, on vous a écouté pendant à peu près 1 heure. Quels seraient les bons réflexes à avoir pour ne pas se retrouver dans la situation du désarroi, de la révolte?
Alors, premièrement, je pense, le séjour à l'étranger. 2 mois, 3 mois de vacances pour commencer, 1 an après. Il y a quand même moyen, quand on cherche bien, de vivre à l'étranger en y travaillant, soit dans les universités. Ça exige souvent des relations. Je reconnais, ça se fait pas comme ça. Mais quand l'occasion se présente, je pense essentiel qu'un étudiant en profite. Quand je suis parti aux États-Unis en 46, je ne vais pas me présenter comme modèle. En réalité, je suis parti avec un ami qui a fait une très belle carrière aux États-Unis, français, et nous y sommes partis, mais c'était pour nous, à l'époque, un choc extraordinaire. Moi, j'ai des amis qui ont culbuté, qui ont fait à l'époque de la dépression, qui sont liquidés. De tristesse, de changer de monde. C'était un monde totalement différent.
Le dépaysement les a déstabilisés.
Complètement.
Ça serait peut-être moins vrai aujourd'hui.
C'est beaucoup moins vrai. C'est beaucoup moins vrai. Mmh. Le monde s'est unifié sur ce plan-là d'une façon considérable. Autrement dit, je pense qu'il y a n'importe comment une certaine difficulté à quitter le cocon français, sinon familial. Mais il faut, c'est un, à mon avis, une des conditions fondamentales, fondamentales du succès.
Donc, premier point, séjour à l'étranger, des relations. On peut aussi déposer un projet, je ne sais pas moi, auprès d'une fondation, si on a un projet particulier, faire un voyage itinérant que l'on peut faire répercuter par les médias, je ne sais pas moi. Il y a certaines pistes aujourd'hui pour partir à l'étranger, montrer qu'on sait vivre hors de son environnement habituel. Ça, c'est fondamental. Première condition. Votre deuxième conseil.
La deuxième condition, c'est qu'avant de t'embarquer dans une filière, ne pas se dire « j'aime ça ou j'aime pas ça ». C'est de se renseigner sur celles qui ont des débouchés. J'avoue que dans le métro, il y a 15 jours, j'ai eu le plaisir d'entendre pour la première fois de ma vie, des étudiants, deux personnes qui avaient fait leur secondaire ensemble, un garçon et une fille, de conditions manifestement qui ne descendaient pas de la cuisse de Jupiter, ni l'un ni l'autre. Et l'un devait être même un immigrant. Et ils s'expliquaient comment ils étaient sortis de leur filière secondaire. Ils disaient, tous les deux, la fille disait, moi je suis maintenant maître de projet, je ne sais pas où, elle sortait très très astucieuse. Et lui, il lui disait, bah tu vois, moi, j'ai cherché pendant que j'ai commencé une vague licence, et puis je me suis dit, ça ne mène à rien, et j'ai cherché une filière qui aboutissait quelque part. Il avait trouvé une filière privée, Dieu sait où. Il m'a dit, je suis très content, je sais que j'aurai un poste au bout. Il faut avoir ce comportement utilitaire.
Il y a peut-être aussi la formation continue pour ceux qui sont déjà engagés dans une filière qui s'éteint ou qui
ne voit pas le bout. Et des formations continues, ça existe aussi. Mais il faudra qu'ils se démènent parce qu'en France, dans leur université ou dans les RUT ou ailleurs, ils ne trouveront pas l'information suffisante pour choisir. Il faut qu'ils cherchent et qu'ils cherchent d'arrache-pied.
Il y a un peu une contradiction entre le fait que les étudiants sont encore parfois très adolescents, qu'on entretient l'étudiant dans une forme d'adolescence, la société de consommation vit de cette adolescence attardée en quelque sorte, et en réalité il faut être responsable très très vite pour ne pas perdre de temps.
Je vais encore d'attaquer l'éducation nationale où j'ai eu de bons amis très dévoués, mais je dois dire que j'ai été scandalisé, j'avais eu une mission de recherche de la réforme des sciences humaines il n'y a pas très longtemps, qui n'a pas abouti, le cabinet est tombé à ce moment-là, le cabinet de la recherche. J'ai eu la surprise d'observer qu'un travail auquel je m'étais beaucoup consacré, qui était le recensement des thèses, n'aboutissait dans les sciences humaines à rien, parce que Lille a toujours un dépôt de thèses fort précieux de toutes les disciplines, mais elles ne sont pas ventilées finement. C'est-à-dire que le ministère est dans l'incapacité de vous dire actuellement quelles sont les filières, au sens étroit du mot, c'est pas sciences humaines, sciences exactes, c'est un intérêt sciences humaines, la filière dans laquelle il y a un excès de thèses considérable et donc où la filière est bouchée. Je n'ai jamais pu obtenir ces chiffres et je savais. J'ai présidé le comité consultatif de la recherche, la DGRST, pendant un moment. Déjà à l'époque, nous préoccupions du problème. Ça n'a pas avancé d'un pouce.
Maintenant, il y a l'encadrement des thèses quand même. Les thèses en équipe, on peut plus choisir tout seul son sujet. C'est lié quand même à un souci de rationalité.
Mais la thèse faite, elle est recensée à Lille. On sait que M. Attel a fait telle thèse, mais le classement de ces thèses en sous-catégorie n'est pas fait. Ouais. Ce serait un travail de un mois.
Et ce n'est pas fait.
C'est pas fait.
Là, on a bien compris quand même toutes les aberrations liées à l'administration au cours de nos discussions, Pierre Bochet. Séjour à l'étranger, filière, il faut se renseigner très tôt. Troisième conseil ?
Travailler.
Travailler ? Réhabiliter le travail.
Oui, absolument. Bon, il faut bien dire qu'il y a beaucoup d'illusions qui courent sur le fait qu'on peut réussir une carrière sans travailler avec un diplôme. D'abord d'avoir le diplôme, et ensuite, bon, c'est vrai que la concurrence va être de plus en plus dure. La concurrence avec les étudiants chinois, j'ai eu des étudiants chinois que j'ai bien connus et que je suis toujours. La concurrence sera de plus en plus dure, de plus en plus difficile, parce que vous aurez de plus en plus de Chinois ayant des niveaux de salaire comparables aux nôtres, et qui vont se présenter sur nos terres.
Ou indiens qui parlent déjà anglais.
Ou indiens.
Donc là, travailler. Voilà, travailler. Ça résume un peu le sens de notre propos. Mais on a bien compris, grâce à votre analyse et la pertinence de votre propos, de quoi il en ressortait exactement. Et vous insistez bien sur le fait donc, que c'est notre système, la rigidité de notre système et le manque d'information.
Oui.
L'absence d'orientation, l'absence de sélection dans le bon sens du terme. Le mot sélection est un peu maudit aujourd'hui, mais il faut bien peut-être le répéter.
Elle a lieu n'importe comment.
Mais elle a lieu n'importe comment.
Ouais.
Le tout, c'est qu'elle ait lieu le plus tôt possible pour pouvoir se retourner.
Et il n'y a pas d'héritier dans ce... Mais je ne partage pas du tout la pensée de Bourdieu. Je ne crois pas que les personnes qui réussissent soient automatiquement des héritiers. Je pense qu'il y a un va-et-vient dans la société française qui date du 19e siècle. Et qui, grâce à un enseignement public de très grande qualité et qui reste encore passable au niveau du primaire notamment, peut aujourd'hui s'exercer. C'est-à-dire que, mais ça, l'importance du monde enseignant est fondamentale. C'est grâce aux instituteurs du 19e siècle que la France a pu dégager des élites qui étaient à l'époque mondiales.
Ça veut dire que ce qu'on sème maintenant, on va le récolter.
Tout à fait.
Dans 15-20 ans.
Tout à fait.
Et que c'est maintenant qu'il faut s'y atteler. On a compris que la préoccupation numéro un pour vous, c'est quand même l'éducation nationale. Hein.
Fondamentale.
Beaucoup plus que
tout à fait
que tout autre poste.
Et je ne vais pas dire de mal. Je suis rentré qu'en sortant du CNRS, on m'avait offert le ministre de l'époque m'avait donné un poste de recteur. Je suis sorti très fatigué du CNRS parce que j'avais vécu tous les événements de 68. Et on s'est pas amusé à ce moment-là. Et mais période passionnante que je ne regrette pas. Et j'ai dit monsieur le ministre que je connaissais d'amitié. Je lui ai dit monsieur le ministre, soyez gentil. Je ne prendrai pas de rectorat. Je veux rentrer dans l'enseignement. Et effectivement, je dois dire. Après une vie assez mouvementée dans différentes carrières, mais toujours publique, que le plus bon, le plus beau moment de la vie, c'est quand même la période d'enseignement.
Merci beaucoup Pierre Bochet. Vous êtes membre de l'Institut, bien sûr. Je rappelle que vous êtes docteur en économie, que vous avez dirigé des études à l'École nationale d'administration, que vous avez présidé l'Université Paris 1 et que vous avez dirigé l'ensemble des recherches en l'ensemble des sciences humaines au CNRS où vous avez fait une partie de votre carrière. Merci beaucoup.
Merci à vous.